Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, on vous parle tout d'abord du film « L'ordre secret » du réalisateur Phil Como. « L'ordre secret ou la patente » raconte l'histoire et le rôle de cette association nationale forte de 72 000 membres qui a œuvré à renforcer le fait français. Et elle marquera l'histoire.
Il y a des gens qui refusaient, oui, il y a des gens qui refusaient d'admettre qu'ils en faisaient partie parce qu'ils avaient prêté un serment de jamais parler de l'ordre. À tel point que même plusieurs d'eux, les épouses, n'étaient pas au courant qu'ils faisaient partie de l'ordre. C'était un watchdog.
Puis on fait du saut de mouton à travers le Canada pour vous parler du mois de la francophonie. Une humoriste anglophone se produit en français à Yellowknife.
Je trouve le public francophone, ils sont un peu moins conservatifs.
Une nouvelle école francophone sera construite en Alberta.
Quand ils ont fait l'inspection de l'édifice, ils ont déterminé que l'édifice était pas en état d'être rénové. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé de remplacer l'école. C'était plusieurs années de revendications.
Des aînés de la région d'Ottawa parlent toujours français et en sont fiers.
Ça serait facile, si on laissait aller, de perdre notre langue.
Et un fait divers, un mannequin est retrouvé pendu à un viaduc en Nouvelle-Écosse. L'affaire sème l'émoi dans la communauté. Une enquête est ouverte. Ceci est plus encore à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le film « L'ordre secret » du documentariste néo-écossais Phil Como a été projeté le 10 mars dernier à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Un film étonnant qui nous révèle l'existence réelle d'un tel ordre, celui de l'ordre secret de Jacques Cartier, aussi surnommé pour les habitués « la patente », afin d'en préserver l'anonymat. L'ordre de Jacques Cartier a été fondé en 1926. Il comptait près de 72 000 membres disséminés à travers le pays. Des Canadiens français, comme on disait, qui s'était donné pour mission de faire progresser le fait français au Canada et certainement les droits des francophones partout au pays, surtout en situation minoritaire, pendant des décennies. Et ils ont réellement œuvré dans le plus grand secret, l'ordre secret de Jacques Cartier, qui a été fondé à Ottawa par des Ontariens, des Néo-Écossais et des Québécois, a réellement évolué comme une secte secrète, en fait, pour devenir une espèce de chien de garde des droits des Canadiens français à travers le pays. Les membres devaient même prêter serment à leur entrée de la patente. Le film L'ordre secret, qui vient d'ailleurs de remporter le prix du public à la 36e édition du Festival international du cinéma francophone en Acadie, qui s'est conclu en novembre dernier. Le réalisateur Phil Como a eu l'idée de faire ce film quand son père lui a révélé, 2 jours avant sa mort, l'existence de cette organisation et le fait qu'il en était membre. Inutile de vous dire que M. Como a eu de la difficulté à retrouver les anciens membres de l'ordre secret, mais encore plus ceux qui pouvaient et voulaient lui en parler. Adèle Gros-Perrin s'est jetée sur cette histoire pour nous ramener cet extrait de cet entretien avec Phil Como, la suite sur canada-info.ca.
L'ordre secret, c'est l'histoire de l'ordre de Jacques Cartier, qui est une société secrète qui travaillait dans l'ombre à travers le Canada avec 850 cellules qu'on appelait des commanderies pour faire avancer le fait français. Le fait français, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau politique, pour que les francophones aient plus de droits, par exemple, plus de droits en éducation, parce que dans ces années-là, l'éducation francophone était illégale, en Nouvelle-Écosse comme dans la plupart des provinces à l'extérieur du Québec. Et l'ordre de Jacques Cartier, qu'on appelait aussi la patente, a fonctionné pendant 40 ans, de 1926 à 1965. Mon père m'a appris qu'il faisait partie de l'ordre de Jacques Cartier sur son lit de mort. Fait que j'ai été assez surpris, assez étonné, premièrement, qu'il faisait partie d'une société secrète, et deuxièmement, qu'il y en avait une dans ma communauté, parce que j'ai été élevé à la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, et jamais que j'aurais imaginé qu'il y avait une société secrète qui fonctionnait à la baie Sainte-Marie, comme il y en avait à Halifax, à Chiticamp, à l'Île-Madame, etc. Fait que, et donc, ça a été une très grande surprise, et c'est là que j'ai décidé que j'allais essayer de faire un film sur cette histoire de l'ordre secret, parce que pas grand Canadien était au courant. Je suis allé aux archives nationales à Ottawa pour voir si je pouvais avoir accès aux archives. Il y avait un embargo sur les archives de l'ordre secret. Donc, il m'a fallu attendre plusieurs années que l'embargo soit levé pour que je puisse enfin découvrir plus sur l'ordre, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils ont fait dans nos communautés, etc. Il y avait des archives à l'Université d'Ottawa, aux archives nationales à Ottawa, à l'Université de Montréal, puis à l'Université de Moncton. J'ai pas été capable d'en trouver à l'Université Sainte-Anne. Par contre, j'ai trouvé des archives qui parlaient de la Nouvelle-Écosse à l'Université de Moncton, surtout parce que la Nouvelle-Écosse relevait de Moncton. Parce qu'il y a des différents niveaux, si tu veux. Il y avait Ottawa, qui était le siège social. C'est là que l'ordre a été fondé en 1826 par des Québécois, des Ontariens, puis un Acadien. Puis de là, ça s'en allait dans les régions. Et pour la Nouvelle-Écosse, ben, c'était à partir de Moncton qui était le bureau régional, si tu veux. Il faut dire qu'il y a eu 72 000 membres à travers le Canada pendant les 40 ans. Et sur les 72 000, il n'y en reste même pas 10 % qui sont vivants. Le plus jeune, j'ai pu trouver, avait 77 ans. Le plus jeune et la personne la plus âgée, 94. J'ai filmé une quinzaine de commandeurs, dont un en Nouvelle-Écosse. Il y a des gens qui refusaient, oui, il y a des gens qui refusaient d'admettre qu'ils en faisaient partie parce qu'ils avaient prêté un serment de jamais parler de l'ordre, à tel point que même plusieurs d'eux, leurs épouses, n'étaient pas au courant qu'ils faisaient partie de l'ordre. Fait que il y a des gens confusés, mais le fait que l'embargo a été levé sur les archives et que j'avais accès au registre des membres, donc aux 72 000 membres, ben là j'ai pu trouver tous les membres qu'il y avait d'un bout à l'autre du pays, mais aussi en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, il y avait à peu près 130 membres. En Nouvelle-Écosse, il y avait 7 cellules ou des commanderies. En termes de francophonie, ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse, ils ont installé 4 postes de relais de Radio-Canada, parce que Radio-Canada, avant l'ordre, c'était impossible d'entendre Radio-Canada en Nouvelle-Écosse. Ils ont travaillé très fort pour essayer de bilinguiser les enseignes, parce que la majorité des enseignes étaient en anglais seulement. Même les noms des villages avaient été traduits par le gouvernement en anglais. Au niveau de l'éducation, parce que l'éducation en français était illégale en Nouvelle-Écosse, ils ont fait énormément au début des photocopies, imagine donc, au Gessner, de textes français pour pouvoir les distribuer dans les écoles. Éventuellement, ils ont publié des livres, etc. Ils ont ouvert les clubs Richelieu. C'est l'ordre de Jacques Cartier qui a ouvert les clubs Richelieu. Et les clubs Richelieu, il y en avait partout à travers la Nouvelle-Écosse, qui est un club social fondé par l'ordre de Jacques Cartier, mais qui était public. Mais on le sait, la plupart des membres du club des Richelieu étaient aussi membres de l'ordre de Jacques Cartier. Donc, il y avait les réunions publiques puis les réunions secrètes. Ils ont défendu le Collège Saint-Anne à chaque fois que le collège était menacé par des coupures ou autres. En termes de culture, ils ont encouragé le développement de festivals acadiens, comme je disais tantôt. Ils ont développé la musique d'expression acadienne française. Il y avait un folk school aussi en français au Cap-Breton. Au niveau de la politique, ils plaçaient des députés qui avaient des valeurs similaires à l'ordre de Jacques Cartier, qui voulaient faire avancer les francophones, d'arriver à avoir une loi permettant l'enseignement français dans les écoles, etc. C'était un réseau. Ils faisaient du noyautage, qu'on appelle. Et donc, ils faisaient partie de toutes les associations. Donc, en plus de l'ordre secret, ils s'en allaient dans toutes les autres associations de leur communauté, que ce soit Halifax ou ailleurs. Et puis, ils s'infiltraient, si on peut dire, pour s'assurer que jamais que les francophones soient reculent ou soient mal vus ou qu'on fasse des choses anti-francophones. C'était un watchdog. La fondation du club français en 1965, c'est parti du groupe d'Halifax. 2 ans plus tard, on a fondé la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Les anglophones avaient leurs propres ordres secrets. Il y avait les orangistes qui travaillaient non seulement pour faire avancer les anglophones, mais aussi qui travaillaient contre les francophones. Tu avais aussi les francs-maçons qui, eux, n'étaient pas contre les francophones, mais qui étaient contre les catholiques. En autre mot, l'ordre de, les francs-maçons, eux, c'est une organisation secrète qui existe encore aujourd'hui, comme les orangistes d'ailleurs. Puis eux, c'est que c'était basé sur la science, donc ils croyaient à aucunement la religion. Donc, puis le troisième groupe, c'était le Ku Klux Klan. Ça va peut-être t'étonner, mais le Ku Klux Klan, c'était pas seulement de la discrimination contre les Noirs aux États-Unis, c'était vraiment de la discrimination contre les Français et les catholiques du Canada. Et donc, il y a eu du Ku Klux Klan dans ces années-là, et c'est une autre des raisons pourquoi les Français devaient organiser une société secrète francophone.
La suite de cet entretien avec Phil Comeau sur canada-info.ca.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Dirigeons-nous vers le centre du pays à Ottawa, où on lançait en grande pompe, comme à travers le pays et ailleurs dans le monde, le mois de la francophonie. Le mois de la francophonie, c'est le mois de tout le mois de mars. 8 millions de Canadiens ont comme langue maternelle le français et l'Ontario compte la plus importante communauté francophone hors Québec au pays. On en dénombre 620 000 environ. Près de 40 % d'entre eux habitent Ottawa, 20 % ont élu domicile à Toronto, mais aussi dans l'Est et le Nord de l'Ontario. En Ontario, d'ailleurs, le français est la langue maternelle de 4 % de la population. Marie Hillès est allée à la rencontre d'aînés francophones du centre Pauline Charron à Ottawa pour leur parler en français du mois de la francophonie.
Selon Statistique Canada, 320 millions de personnes parleraient français dans le monde. C'est la langue maternelle de près de 8 millions de Canadiens. C'est le moment de faire rayonner et de réaffirmer cette belle langue avec les aînés du centre Pauline Charron à Ottawa.
Pour moi, c'est ma langue natale. J'ai toujours parlé français, même si mes grands-parents parlaient seulement que l'anglais. Mes parents insistaient que chez moi, on parle français. Alors, pour moi, c'est très, très important de conserver ma langue. La raison que je suis un centre francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres d'aînés francophones à Ottawa. Alors, ici à Pauline Charron, nos activités sont en français, ce que j'apprécie beaucoup.
C'est important de tenir au français à cause que on a beaucoup de personnes qui parlent leur français ici en Ontario. Moi, j'ai été à l'école française toute ma vie, seulement que quand je suis déménagée à Toronto, donc tout était anglais. Il n'y avait pas de français du tout, autant que moi, j'ai déménagé à Toronto. Et puis, quand je suis revenue à Ottawa, j'étais très fière d'être capable de commencer à reparler mon français.
Je suis français. Je viens du Québec. Je suis déménagé en Ontario à Vanier, ici. Puis Vanier, mais c'est français. Donc, c'est comme chez nous.
Pourquoi c'est important de continuer à parler en français à Ottawa?
Parce que c'est dans nos racines. On est venu au monde en français, puis mes parents sont français, puis mes amis sont français.
Le français à Ottawa, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, moi. Juste aller au magasin ou n'importe quoi, on dirait qu'il n'y a plus personne qui... Tu sais, les personnes qui travaillent au magasin, on dirait que c'est plutôt anglais que français.
Je suis francophone d'abord, mais j'ai travaillé en Ontario presque toute ma carrière. Au gouvernement fédéral, on avait beau dire qu'il y avait du bilinguisme, on sait que c'était surtout la langue anglophone. Étant une des rares bilingues, et ça m'a aidé dans ma carrière. Mais je suis contente de retrouver mon français en dehors du bureau. C'est le fun de voir que l'éducation en français, je suis retournée aux études à l'âge de 50 ans en français. Je fais plein de choses en français, puis ça me fait plaisir. C'est important pour garder notre langue française parce que ça serait facile, si on laissait aller, de perdre notre langue.
Marie Hillès, qui a aussi assisté à une soirée country présentée au Centre Pauline Charron, retrouvez-la sur canada-info.ca.
Sébastien Beltran à Halifax.
vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Le mois de la francophonie qui rayonne jusque dans les territoires du Nord-Ouest et en particulier à Yellowknife, là où Rachel Ely, une humoriste anglophone ontarienne, s'est produite en français alors qu'elle aurait bien pu faire le contraire. Rachel Ely qui a été présenter son spectacle en français et par choix lors du Snow King's Winter Festival de Yellowknife. Notre journaliste Raphaël Hamel l'a rencontrée.
Well, parce que je suis une humoriste, il peut attendre pour rire. C'est certainement qu'ils vont rire. Et ils vont voir la perspective d'une mère de deux adolescents et de quelqu'un qui est une humoriste mariée à un gynécologue et quelqu'un qui est de l'Ontario.
L'humoriste Rachel Ely adore le public francophone.
Je trouve le public francophone, ils sont un peu moins conservatifs. Il y a une appréciation pour les humoristes francophones. You know, j'ai fait mon premier Juste pour rire gala cette année et c'était vraiment inspirant de faire un show pour une public qui veut vraiment entendre ma voix et les opportunités à Juste pour rire pour les francophones, les humoristes francophones, c'est il y a beaucoup plus d'opportunités.
L'artiste s'inspire beaucoup de son quotidien pour écrire ses numéros.
Il y a toujours des nouveaux défis avec une partenaire et avoir un mari qui est un docteur et une profession tellement différente de la mienne, ça m'a donné beaucoup de matériel. J'ai écrit même un show qui s'appelle « Mel, je t'aime encore » et c'était complètement l'histoire de moi et mon mari et de un temps où on a presque divorcé et comment on a trouvé l'amour encore. Alors, je suis très honnête avec mon travail et de ma vie.
C'est aussi une humoriste qui mise beaucoup sur l'improvisation.
Alors, je suis très confortable avec l'improvisation. Et je pense que c'est une bonne façon de comme être dans la même salle de tout le monde. C'est pas comme je fais la même chose chaque fois que je joue. Je pense que ça change tout le temps. Et faire un peu d'improvisation avec le public, ça, c'est une bonne façon de faire un spectacle un peu différent chaque fois. J'ai réalisé qu'il y avait un Hollywood au Québec. Immédiatement, j'étais très excitée par cette idée. Quand j'ai découvert Le Bordel, un club où on peut faire 6 shows dans une soirée, et une public qui adore les anglophones qui essaient de jouer en français. Et je pense qu'il y a une appréciation pour la façon d'humour, le type d'humour que je fais. Alors, c'était vraiment une combinaison de voir un Hollywood au Québec et trouver un public qui vraiment m'apprécie.
L'humoriste Rachel Ely, au micro de Raphaël Hamel. Les élèves francophones de la région de Rivière-la-Paix en Alberta pourront dès septembre prochain prendre leurs aises et étudier dans les nouveaux bâtiments de l'École des Quatre Vents. On a préféré reconstruire l'école au lieu d'en rénover les locaux. Les installations actuelles ayant été jugées vétustes par les autorités provinciales et fédérales qui ont participé à son financement. Le Conseil scolaire francophone Nord-Ouest réclamait d'ailleurs cet investissement depuis belle lurette. La nouvelle école doit accueillir environ 220 élèves de la pré-maternelle à la 12e année dès la prochaine rentrée scolaire. Rachel Bergeron de l'École des Quatre Vents est au micro d'Imelda Wafak à Rivière-la-Paix.
Mais pour l'École des Quatre Vents, la raison que le Conseil scolaire a vraiment fait beaucoup de revendications pour avoir une nouvelle école, c'était que l'édifice actuel a été hérité d'un autre conseil scolaire, puis ce moment-là, l'école des 80, c'était maternelle à sixième année seulement. Puis l'école, l'édifice actuel, c'est vraiment pour les jeunes du primaire. Donc maintenant, l'école des 80, c'est une école maternelle à la 12e année. Puis on a des élèves jusqu'en 12e année. Donc l'école est absolument pas appropriée pour le secondaire, là, mais vraiment pas. Pour la, parce qu'il y en a des salles de changement, les salles de bain, le gymnase, en tout cas. Il y a eu des revendications avec le gouvernement, comme on aurait peut-être voulu une rénovation ou une modernisation, mais quand ils ont fait l'inspection de l'édifice, ils ont déterminé que l'édifice était pas en état d'être rénové. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé de remplacer l'école pour avec une nouvelle construction, parce que l'ancien édifice était plus en état sécuritaire là, pour les élèves. C'était pour ça que ça se passe comme ça. C'était plusieurs années de revendications. Le nouvel édifice va répondre vraiment aux besoins de tous les élèves de l'école avec des aspects là, techniques et modernes. Non, on est vraiment content du résultat de ce projet-là. Donc, en septembre, les élèves devraient pouvoir entrer dans la nouvelle école, commencer la nouvelle année dans l'école. Donc, ça, c'est encore à jour. La construction va très bien avec l'automne qu'on a eu puis l'hiver, là, les équipes de construction, il y a eu quelques retards sur certaines choses, mais en général, ça avance très bien.
Rachel Bergeron, au micro de Imelda Wafak à Rivière-la-Paix.
Vous écoutez Point de vue.
L'Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean ou ARCEF du Nouveau-Brunswick lance son nouveau pôle de service destiné aux nouveaux arrivants francophones. Le centre, baptisé La Croisée, s'ajoute à l'offre de services présentée aux immigrants francophones qui se font de plus en plus nombreux dans la région. Pour Michel Côté, directeur général de l'ARCEF, La Croisée est un bel exemple de collaboration entre les différents acteurs du milieu francophone de la ville et témoigne de l'importance aussi qu'on accorde à l'accueil à l'intégration des nouveaux arrivants dans la région, des propos recueillis par Sébastien Caron.
La Croisée, c'est vraiment un espace d'accueil. Okay. Ça fait quelques années, puis ça fait partie de la planification stratégique de l'Archive de Saint-Jean qu'on voulait mieux s'équiper pour accueillir les nouveaux francophones qui viennent dans la région. Quand on parle de nouveaux francophones, on parle non seulement de nouveaux arrivants immigrants. On parle de nouveaux francophones qui nous arrivent de Edmundston ou de Caraquet, là. On a commencé cette amorce-là en créant un espace physique où on a déplacé les bureaux des employés qui avaient un rôle à jouer avec les membres de la communauté. Lorsque les gens vont arriver là, ils vont avoir ces trois intervenants-là qui vont pouvoir les aider avec différents services. Accueillir puis jouer un peu le rôle de corps arrière, là. Donc, OK, je cherche les services là, je cherche les services dans tel secteur. Bon, ben, ils pourraient leur dire où aller et tout ça. Donc, je pense qu'on est rendu à un point où il faut mieux s'organiser, mieux s'équiper pour accueillir les nouveaux francophones parce que on en a de plus en plus à chaque année.
Monsieur Michel Côté, directeur général de l'ARCEF, au micro de Sébastien Caron.
Thank you.
Et pour conclure, on fait un arrêt inusité à Comoville, en Nouvelle-Écosse, où notre reporter Gilles Saunier nous a ramené une nouvelle saugrenue. Monsieur Matthew Blin revenait par un beau samedi soir du cinéma avec son épouse et sa fille quand ils ont été témoins d'une scène troublante. Ils circulaient sur la route quand ils ont au loin aperçu une forme pendue à un viaduc. Ils ont d'abord craint le pire, mais il s'est avéré que ce n'était qu'un mannequin pendu à ce viaduc du Petit Ruisseau. La GRC de Métingan devait d'ailleurs recevoir ce soir-là plusieurs appels rapportant cet incident qui a semé l'émoi dans la communauté. Heureusement, la fille de Matthew Blin n'a rien vu de la scène. Elle qui s'était endormie sur la banquette arrière, la GRC a ouvert une enquête. Les réactions de M. Blin au micro de Gilles Saunier.
Elle pensait, well, ma fille avait alors 11, ce gars il n'y a rien de mouf peut faire pour. Et il y avait déjà deux personnes là. Elle pensait, well, on va m'en aller, puis on va coller au moins la police, que tu sais, quitter les yeux à savoir. Ma femme était, tu sais, elle était hysterical, comme elle ne savait pas à quoi croire, à croire que tu sais, t'es allé nous faire arrester ou de quoi. Elle dit, ben, il n'y a rien pour faire. Elle va présenter ici, elle n'a pas besoin de voir ça. Il y avait deux cars là. Je ne fous pas ma famille dans cette situation ici, ça c'est pas de quoi que personne n'a besoin de voir. Je fais bad à ce que moi je l'ai vu. Puis pour une soirée et un matin, là, j'étais comme. Après, jusqu'au temps où j'ai su quoi c'était. J'étais pas mal en choc, comme ça a pas mal donné sur moi après une journée ou deux. Là. Tu sais, j'ai des problèmes mentaux et tout, des issues, comme n'importe qui, I guess, mais. Quand de quoi même t'arrives, c'est comme il pense encore. Même à ce que je sais mieux, c'est comme il y a encore de quoi là que je peux pas élaguer comme. J'ai vu de quoi qu'au temps. J'ai ma fille même, avec. La feeling que j'ai eu, que j'ai vu de quoi de même, là, même que ça aurait vécu comme basic une soirée, c'est. J'ai ma fille de quoi de même, avec. Ou non, c'est peut-être un kid qui a fait de quoi de stupide. Moi, quand t'es jeune, j'ai fait un masse de stuff, que t'es stupide. Mais, il devrait avoir de quoi, selon moi, il devrait avoir une leçon d'appris ça. Avoir le fun, c'est alright, là, mais il y a une limite, là. Puis faire du stuff de même, c'est pas bon, veut dire, c'est pas une affaire à aider la personne, c'est pas comique. Nobody on, tu sais. I don't know, c'est un bad taste, c'est un joke.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, Marie Hélesse, Gilles Saunier, Sébastien Caron, Imelda Wafak, Adèle Gros-Perrin et Raphaël Hamel. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine, j'espère.